Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 5 février 1992.
Petite question sur l'acte et la puissance. Vous avez dit la dernière fois que seul l'être en acte existe. Seul l'acte en acte est... Comment comprendre alors que l'être se divise en être en acte et être en puissance? Qu'entend-on par se divise? Oui, comprenons bien. Je veux essayer de saisir avec vous. Nous partons des états différents. État d'imperfection, état de perfection. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Et puis celui qui est entre les deux. Ça existe. Celui qui a la grippe, est-ce qu'il est en acte ou est-ce qu'il est en puissance? Casse-tête et le pot pour savoir. On dépasse ces états imparfaits au niveau de l'être. Pourquoi? Parce que les états impliquent toujours un devenir. Dans le devenir, on peut voir du plus et du moins facilement. Ce que je cherche, c'est au niveau de l'être, donc au-delà du devenir. Saisir ce par quoi le devenir est en acte. Donc au niveau de l'être, je saisis l'être en acte comme fin et non pas comme un état, comme quelque chose d'ultime. Il est. C'est pour ça que ce serait plus juste de dire l'être en acte est que exister. J'aime mieux parce que l'être en acte comme tel, ce que je saisis, c'est un principe. Or, un principe n'existe pas comme principe en dehors de ma saisie intellectuelle. Il est bien dans la réalité. Mais il n'existe pas dans la réalité, dans la manière d'être d'un principe. Vous n'avez jamais vu un principe se promener. C'est assez troublant. Vous auriez peur de la décharge électrique. Mais ce que vous saisissez, c'est dans la réalité ce par quoi cette réalité est. En acte. Donc, l'être en acte, il est, tout simplement. Et en lui, il n'y a que l'être. Il est. L'être en puissance, au contraire, n'est jamais un principe. Le rien n'est pas l'être en puissance. puissance est ordonnée à l'être en acte. Donc, il a une certaine manière d'être, qui est d'être second, relatif à. Et lui implique forcément du plus et du moins. Il est plus ou moins proche de l'être en acte. Il est ordonné à l'être en acte. Vous voyez, c'est pour ça que cette division de l'être en acte et de l'être en puissance est quelque chose de très particulier. C'est une séparation de toute potentialité par rapport à ce qui est en acte. Séparation de toute potentialité. Séparation de tout ce qui est secondaire pour ne regarder que ce qui est premier. Et seule l'intelligence peut faire cela. L'intelligence seule saisit l'être en puissance. L'être en puissance existe dans une réalité en acte qui est complexe en vous, en nous, en chacun d'entre nous. Je saisis l'être en acte, je suis, et je saisis l'être en puissance. Il y a en moi une capacité à être plus. Je suis sur la terre, je peux tendre vers quelque chose de plus acte, de plus parfait. Il y a donc en moi une potentialité qui permet cela. Celui qui dit je ne peux plus me perfectionner, j'ai atteint un sommet. Vous voyez, le pharisaïsme métaphysique supprime la potentialité. Et je considère que je suis parfaitement en acte. Regardez-moi, je suis l'être en acte. Je ne peux pas dire ça. Et personne d'entre nous ne peut le dire. Et s'il le dit, on a le droit de lui rire au nez. Ça prouve qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'être en acte. La grenouille métaphysique qui veut devenir aussi grosse que le bœuf métaphysique. Alors elle s'enfle. Puis ça éclate. Il y a en nous, vous voyez, c'est pour ça que c'est très délicat, en nous, dans notre expérience de nous-mêmes et des autres, il y a toujours la complexité de l'être en acte et d'être en puissance. Mais je peux interroger, métaphysiquement, dans cette réalité complexe qui implique l'être en acte et l'être en puissance, qu'est-ce que c'est que l'être en acte? Ce par quoi l'être en puissance est en acte. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte? Qu'est-ce que c'est que l'être en puissance? Ce ne sont plus des états. L'être en acte est plus, il est quelque chose d'ultime. Et l'être en puissance est tout entier ordonné à l'être en acte. Alors, quand on dit l'être en acte et l'être en puissance, c'est une division de l'être, c'est très vrai. C'est une division que l'intelligence peut opérer. Comme intelligence. La raison, absolument pas. Mais seule l'intelligence peut le faire. Je peux prendre conscience que je suis en acte. Et qu'il y a en moi quelque chose d'absolument irréductible à l'égard de toutes les autres réalités. Mais ça vous donne confiance métaphysiquement en vous. Je suis unique au monde. C'est quand même pas. pas si mal. Dans l'ordre métaphysique, je ne suis pas un numéro. Je suis unique. Voilà ce que me fait comprendre l'être en acte. Alors voyons, on peut savourer ça. Hein. Métaphysiquement, on peut le savourer. Si on est dans la réalité, on ne savoure pas parce qu'on sait que tout de suite, cet être en acte implique l'être en puissance. Et l'être en puissance, je suis comme tout le monde. C'est l'aspect générique. Tous les petits copains sont être en puissance. Et l'être en acte, ah, il y a quelque chose d'unique. Et il faut essayer de le saisir. En toute vérité, hein, pas psychologiquement. C'est ça qui m'est au-delà du point de vue psychologique. C'est là où on voit que la psychologie ne me dira jamais ce que c'est que l'être en acte. Jamais. Elle peut me donner des états psychologiques, des états au plan vital, mais elle ne peut pas saisir ce que c'est que l'être en acte. C'est la fin. Et c'est toujours ça qu'il faut essayer de comprendre. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est par là que vous dépassez tout le point de vue psychologique. Et si vous étiez tout le temps dans cette actualité métaphysique, qui est fatigante, hein, absolument pas besoin de psychologie. Parce que la psychologie ne me dit rien de ce qui est le plus intéressant en moi. Parce qu'il m'intéresse, c'est d'être en acte. D'être en puissance, c'est le lot de tout le monde. On s'embrasse, tous les êtres en puissance s'embrassent. Ce qui ne tiennent pas debout. Alors ils s'embrassent. Et ils pensent qu'en s'embrassant, ils vont s'actuer. Pas du tout. Ils vont être à deux, impuissants, à s'embrasser. C'est curieux ces choses-là. Hein, vous essayez de saisir ça. C'est une fois qu'on a saisi ça dans cette induction métaphysique, il y a une petite lumière et même une grande lumière. Il y a en moi, au plus intime de mon être, de moi-même, de mon je suis, il y a l'être en acte. Mais c'est pas Dieu, hein. Ça. Aristote, en parlant d'être en acte, parle de Dieu, pas du tout. Dieu est l'acte pur. C'est très différent, sans aucune potentialité. Et lui, il existe, il subsiste comme acte. Tandis que je sais que je ne subsiste pas dans mon être en acte. Puisque c'est ce qu'il y a d'ultime en moi, saisi par mon intelligence. Selon un mode intentionnel. Mais j'atteins quelque chose de substantiel en moi. Alors voyez, c'est là où la distinction entre le comment et le diesti est ultime. Le comment, c'est ma manière d'exister. C'est mon intentionnalité de ma vie intellectuelle. Et l'être en acte, c'est ce qu'est ultime. Ce qu'est tout à fait parfait. L'être en puissance est toujours saisi dans le pose. Donc tout le monde peut le saisir. Et tout le monde le saisit. Et la plupart des hommes demeurent dans l'être en puissance. Ils ont très peur de saisir leur être en acte. Parce que par là, ils saisissent qu'ils sont uniques. Alors ils ont peur. On a peur d'être unique. Si on est unique, qu'est-ce qui va nous comprendre? C'est une chose terrible. Et c'est vrai, on est unique à quelque chose. personne ne peut comprendre en dehors de moi. Comme je suis heureux. Il y a quelque chose en moi qui est unique. En découvrant Dieu et en découvrant le problème de la création, je dirais, il y a Dieu et moi. La prière de l'arche où le chien dit: Seigneur, en réalité il n'y a que vous et moi qui sommes fidèles. Alors, métaphysiquement, transposer ça métaphysiquement, j'ai cette originalité unique d'exister en acte. Je suis unique, mais je ne suis jamais unique parce qu'il y a Dieu. C'est là où on voit très bien que la métaphysique ne peut être vécue, si j'ose dire, elle n'est jamais vécue totalement, que lorsque je dépasse la métaphysique pour entrer en théologie naturelle. C'est la contemplation. C'est Dieu. Quand vous saisissez que vous êtes quelque chose d'unique, mais vous appelez Dieu, quoi. Pas être unique et pas être derrière un arbre en disant Dieu est loin. Non, il est tout proche. Et alors, il ne faut pas s'arrêter à un gargarisme métaphysique. Quelle joie d'être unique au monde et de savoir que personne ne peut me saisir. Il y a en moi quelque chose d'unique. Saisir. Le meilleur des directeurs spirituels, je lui échappe. Vous voyez, la tentation d'orgueil, c'est évident, ça c'est l'intelligence. Si mon intelligence va jusqu'au bout, une tentation d'orgueil, personne ne peut me comprendre. Sauf Dieu. Je dirais, avec Dieu, je me comprends tout le temps. Et Dieu est suffisamment intelligent pour me comprendre. Mais il n'y a que lui. C'est pas mal de dire ça. Hein. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et ça, la saisie de l'être en acte au plan métaphysique me fait saisir ça. En toute vérité. Et alors, la correction par rapport à l'orgueil, ce sera l'adoration. Qui m'empêchera de m'exalter et dire: il n'y a que moi d'intéressant au monde. Il y a Dieu et moi, c'est évident. Dieu, on le veut bien, mais il n'est pas de ce monde. Il n'est pas dans le monde. Le monde est suspendu à lui. Moi, je suis dans le monde. Et dans le monde, il n'y a que moi d'intéressant. Après tout, je suis unique. Cette saisie d'être en acte. C'est l'intimité la plus grande que je peux avoir avec l'être. Parce que c'est pas par rapport à mon voisin que je vais saisir ça en premier lieu, c'est par rapport à moi. Alors réfléchissez bien là-dessus. Faut pas trop réfléchir parce qu'alors vous n'aurez plus la possibilité d'avoir la grippe, c'est ennuyeux. L'être se divise en être en acte et l'être en puissance. Puisque la potentialité vous ouvre à tous les microbes. L'acte vous fait résister à tous les microbes. Idéologique. Vous voyez qu'aucune idéologie ne peut saisir l'être en acte. Aucune. Puisque l'idéologie demeure dans l'idée. Et l'idée comme telle n'est pas l'acte. C'est l'intentionnalité. Alors, qu'entendez-vous par se divise? C'est l'intelligence qui, dans une intelligence, c'est pas ce qui est en acte de ce qui est en puissance. Donc c'est l'intelligence qui sépare ce qui est en acte de ce qui est en puissance. Et cet effort se fait dans une coopération de l'intelligence et de moi-même en tant que j'existe, de la réalité en tant qu'elle existe. C'est la coopération la plus profonde de la réalité existante et d'intelligence. Et l'être en acte s'impose à moi comme antérieur à ma connaissance. Ce qui spécifie ma connaissance. Ce qui permet de réaliser cette séparation. Donc en face une abstraction formelle ultime. Et c'est là où Satama parlera de ratio actus. Cette séparation se fait au niveau du jugement. Ceci est l'être en acte. Tout jugement présuppose une appréhension. Il y a donc une appréhension de la ratio actus. Satama dit ça très rarement. Je crois qu'il le dit une ou deux fois. Il le dit dans Détris de Tête-Bouès, où il parle justement des différentes modalités d'abstraction et cette séparation. Et l'intelligence, alors, l'appréhension, saisit la ratio actus. Ne voyez pas du tout selon un mode quantitatif. Mais au-delà du mode quantitatif, l'intelligence est capable de saisir ce qu'est cette ratio actus. Mais vous mettrez du temps, hein, vous du temps pour apprendre ça, mais de saisir ça, il faut que notre intelligence s'exerce beaucoup. C'est exactement comme les gymnastiques, il faut du temps. Hein, quand on voit des gens qui font des performances en gymnastique, on croit qu'on va pouvoir les faire tout de suite. Hein, pas du tout. On commence à les faire et puis on voit que c'est pas ça du tout. La lourdeur du corps, ben, la lourdeur de l'intelligence humaine fait qu'on a beaucoup de peine. Mais on doit pouvoir y arriver. Si à l'école Saint-Jean, c'est pour maintenir cette saisie de la distinction de l'être en acte, d'être en puissance. C'est ce qu'il y a d'ultime. Nous allons voir du reste. Alors, encore une autre petite question. En quel sens la finalité découverte dans l'amour d'amitié ou dans la recherche de la vérité reste-t-elle métaphorique ? Oui. Autrement dit, la finalité n'est saisie comme principe qu'au niveau de l'être. L'être en acte. Quand je suis au niveau de la vie, puis-je saisir la finalité dans toute sa force, ou bien est-ce que je ne saisis pas toujours la finalité liée au devenir vital? La vie implique le « c'est mauvais » ou « ce me » quand on est un vivant. Et le « c'est mauvais » implique un devenir. Dans l'ordre de l'amour d'amitié, vous saisissez l'ami comme fin, mais à travers votre amour pour lui. Et vous saisissez l'ami comme ce qui donne à votre amour toute sa signification. est saisi comme un au-delà de l'opération vitale. Comme un au-delà de l'opération vitale. Mais il est saisi à travers l'opération vitale. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que l'ami est une personne existante. L'ami n'est pas un principe. L'ami est une réalité. Je saisis à travers l'amour. Mais dans l'amour que j'ai pour cet ami. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus prégnant au point de vue psychologique. Saisir la finalité dans l'amour d'amitié, c'est quelque chose de merveilleux. C'est saisir ce qui finalise mon cœur, ce qui finalise ma vie spirituelle. Non, c'est beaucoup plus facile à saisir que de saisir l'être en acte au point de vue métaphysique, au point de vue philosophie première. Tout le monde qui connaît par expérience l'amour d'amitié peut saisir cette finalité. Donc, la finalité principe est saisie à travers le devenir et dans le devenir. C'est tout à fait normal au niveau éthique. Au niveau éthique, je suis au niveau pratique. Donc je suis au niveau de quelque chose qui est immédiate, qui est du vécu. Je saisis la finalité à travers cette opération. Si je fais de l'éthique la métaphysique, et que je considère que c'est vraiment dans l'amour d'amitié que je saisis de la manière la plus parfaite la finalité. Je réfléchis donc sur la manière dont je saisis que l'ami est ma fin. Et je saisis cela à travers l'amour que j'ai pour mon ami. Donc, je saisis à travers un vécu intentionnel, actuel, sensible. C'est sûr, l'ami est une réalité sensible, est toujours lié à quelque chose de sensible. C'est en ce sens-là que parce que je le saisis toujours relié à quelque chose de sensible, que le principe de finalité saisi à travers et dans l'amour d'amitié et saisi comme un principe métaphorique. Alors, qu'est-ce que c'est que métaphorique ? La métaphore, c'est toujours ce qui me relie au sensible. Prenez l'exemple classique, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est celui-là qu'on voit le mieux, le lac rit. Vous voyez tout de suite que c'est une métaphore. Tandis que quand vous dites « Mon ami Pierre, c'est ma fin », vous ne voyez pas tout de suite que c'est métaphorique. Tandis que quand vous dites que le lac rit, donc mon ami, quand il me sourit et que je comprends qu'il m'aime, il roi, que, métaphoriquement, parce qu'elle se situe dans l'amour d'amitié. Donc elle est toujours liée au sensible. Ce qui est très vrai pour l'amour d'amitié. C'est pas du tout négligé et négligeable, ça. C'est très important. Parce que c'est plus facile d'atteindre la connaissance poétique que la connaissance métaphysique. C'est plus facile, moi, à moins d'être une buse. Quelqu'un qui n'a aucun sens poétique, alors là. Alors il faut qu'il renonce à tout, hein. Qu'il se fasse uniquement raboteur de cacahuètes, et puis c'est tout. Il ne peut pas faire autre chose. Il n'y a aucun sens poétique. Aucune approche poétique. Le sens poétique permet de connaître la personne et de toucher la personne. Donc il ne faut pas supprimer du tout ce point de vue métaphorique. Il faut savoir à quel niveau ça se situe. La métaphore est au service d'une connaissance absolue en se servant du sensible. Et ça peut être quelque chose de très grand. Mais si je veux avoir une connaissance vraiment métaphysique de la finalité, je dois dépasser ce mode métaphorique et atteindre quelque chose qui est à un autre niveau et beaucoup plus profond. Niveau de l'être, où le sensible disparaît complètement. Il est séparé du sensible, parce que le sensible demeure toujours l'être en puissance. Tandis que, en éthique, l'ami est toujours saisi à travers mon amour, qui lui implique toujours un devenir. Et donc le devenir sensible est présent dans cette saisie de mon amour spirituel et donc de la découverte de la finalité. Et ceci est vrai aussi pour la recherche de la vérité. Parce que la vérité, vous la saisissez toujours à partir de votre opération intellectuelle qui allait limiter comparativement la vérité. Des deux côtés, je demeure dans l'intentionnalité. L'intentionnalité est bloquée et conjointe à la saisie du principe. Et je ne peux pas dépasser cette intentionnalité affective pour l'amour d'amitié, purement intellectuelle, dans la saisie de la vérité. C'est très intéressant et c'est très beau de saisir ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et se mettre dans la connaissance métaphysique. Y a-t-il des questions là-dessus? Parce que on va dépasser maintenant, je ne reviens plus, cette fameuse induction de la saisie de l'être en acte. Je ne vous demande pas ce que vous l'avez saisie, parce que. Mais au moins, vous voyez l'orientation. Et c'est ça qui est important. Dans une induction, c'est de comprendre l'effort ultime de l'intelligence qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce qui finalise ce qui est comme être? Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans ma connaissance de ce qui est? Quel est l'achèvement de ce qui est comme tel? Je le saisis à travers une induction. Une fois que je saisis l'être en acte et l'être en puissance, je peux comparer tout de suite le fruit de ces deux grandes inductions. Nous l'avons déjà un peu fait, mais là, je le reprends. Première induction, la substance. De la qualité. refuser energeia, l'être en acte, et entelekeia. Comprenez que c'est l'opération vitale qui me met en relation avec la fin. Des deux côtés, c'est de dépasser l'intentionnalité pour découvrir ce qui est. L'intentionnalité au niveau formel, l'intentionnalité au niveau affectif, au niveau final. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'au fond, de fait, Aristote est conscient qu'il est le premier à établir ces deux inductions. La saisie de la substance, la saisie de l'acte. Et pour saisir ces deux inductions, il y a deux tremplins. La quiddité, qui n'est pas la substance. L'entelekeia, qui n'est pas le point de vue de l'être en acte. Des deux côtés, c'est le dépassement. Alors, je peux comparer ces deux inductions. L'une se fait au niveau de la recherche, selon la forme, l'autre selon la fin. Donc, c'est par rapport aux deux grands axes de ma recherche. Qu'est-ce que c'est, selon la forme et selon la fin? Alors, ce qui est premier, puisque ça correspond à l'interrogation du TST, qu'est-ce? Ce qui est premier dans l'ordre de la forme, c'est la substance. Dès que je saisis la substance, toutes les autres déterminations sont saisies comme relatives à la substance. Et de l'autre côté, je saisis ce qui est premier dans l'ordre de la fin. Et quand je saisis ce qui est premier dans l'ordre de la fin, cette au niveau de la finalité, demeure quelque chose de premier dans l'ordre de la forme. Je reprends pour que vous voyez bien ça. Hein. Ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on peut saisir assez facilement. Nous avons vu hein, que l'entelekeia est ordonné à l'énergie. L'entelekeia, l'opération vitale d'amour, d'amitié. J'aime Pierre. J'étudie j'aime Pierre dans la lumière métaphysique de la distinction de l'être en acte et d'être en puissance. J'aime Pierre. Est-ce que c'est l'être en acte? Non. C'est la manière pour moi d'atteindre l'être en acte, qui est l'ami. Mais ce n'est pas l'être en acte. Donc, cette manière de l'atteindre par l'amour d'amitié devient quelque chose de second, puisque ce n'est pas l'acte. C'est donc ce qui est en puissance, vers l'acte. Et cependant, au point de vue vital, c'est quelque chose d'absolument essentiel, puisqu'elle me permet d'atteindre ma finalité. C'est donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'accidentel. N'allez pas dire à quelqu'un, oh oui, l'amour d'amitié, oh cet amour que tu as pour quelqu'un, c'est tout à fait accidentel. Si vous dites ça, ça prouve que vous n'avez rien compris. Il y a une quantité qui dit ça. Hein. La scolastique décadente aurait dit ça. Ça expliquerait cet tas de choses, d'ordre pratique. Parce qu'on aurait appliqué brutalement la métaphysique de la substance et de l'acte, sans voir que je dois saisir différemment ces deux divisions de ce qui est. L'une, au niveau vie, au niveau de l'être, c'est pas la même façon. Au niveau vital, l'amour d'amitié me finalise. Au niveau de l'être, l'amour d'amitié n'est pas premier. Si l'amour d'amitié n'est pas premier au point de vue de l'être, il est donc second. Il est ce qui me permet d'atteindre l'acte. Mais il n'est pas l'acte. Je vois donc que l'estimation au niveau être et au niveau vie sont très différentes. Et si je les confonds, je me mets dans une confusion complète dans laquelle la plupart des êtres humains demeurent parce qu'ils confondent l'être et la vie. Donc, je dois être très attentif que la division de l'être en acte et de l'être en puissance est quelque chose de beaucoup plus profond que la division de l'être substance et accident. Il y a des accidents qui sont plus proches de la fin que la substance. Ça, c'est sûr. La substance me donne l'autonomie, mais la substance ne me donne pas le lien avec ma fin. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est l'adage qui montre bien que prendre la division substance et accident, c'est très bien, mais la rendre comme une division, la seule, c'est ce qu'on a fait dans la scolastique décadente, aboutit à des choses impossibles. La division substance et accident est substance et qualité est une distinction. Mais il y en a une autre, plus fondamentale, l'être en acte et l'être en puissance. Donc, essayez de découvrir par vous-même que ces deux divisions sont absolument irréductibles. Je veux aller un tout petit peu plus loin. Et je peux comprendre que ces deux divisions dans l'ordre de l'être vont fonder deux types d'analogies. L'analogie adonum, comme l'appelle saint Thomas, et l'analogie de proportion. L'analogie adonum, c'est celle qui correspond à la distinction de la substance et de la qualité. L'analogie de proportion, c'est celle qui se fonde sur la division de l'être en acte et d'être en puissance. C'est intéressant parce que saint Thomas nous donne tout simplement ces deux analogies sans préciser. Il faut voir à quoi ça correspond s'il faut les comprendre. Toute analogie est une division dans l'ordre de l'être. C'est l'être qui se donne à moi selon des modalités différentes. C'est ça l'analogie. Et j'essaie de saisir ce qu'il y a de commun dans ces diverses modalités et en même temps ce qu'il y a de tout à fait divers. Vous avez quatre modalités de l'être. Substance, qualité, acte, puissance. Mais la première, substance et qualité, est contenue et portée par l'être en acte et l'être en puissance. Parce que la finalité est toujours la cause des causes. Ce qu'il y a d'ultime. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à saisir. Tout être un peu intelligent peut saisir la première distinction de l'être, substance et accident. Un peu intelligent. Tandis que saisir la distinction de l'être en acte et l'être en substance, et l'être en puissance, c'est beaucoup plus subtil. Ça nous échappe. Il faut tout le temps y revenir pour petit à petit permettre à notre intelligence de découvrir son mode analogique. Ça, c'est le fruit de la philosophie. On quitte cette univocité terrible. Les gens dans des paniers, dans des casiers. Ah, j'ai compris cette personne. Ouais, elle est sanguine. Ouais, très bien. Ben oui, il y a mille façons de l'être. Vous savez bien. Une mandarine sanguine. C'est une métaphore. Il y en a qui sont excellentes, il y en a qui sont pas tellement bonnes. Quand elles sont un tout petit peu avancées, ça va plus du tout. Alors voyez, hein, toutes les modèles, c'est du plus et du moins. Il faut arriver à saisir cette analogie dans l'ordre de l'être. Alors, ayant vu cela, nous pouvons maintenant comprendre que cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance est quelque chose de tellement subtil pour nous qu'il faut peut-être tout de suite voir comment cette distinction se présente pour nous pour éclairer toute ma philosophie. Puisque si la distinction de l'être en acte et d'être en puissance est ultime au plan philosophie première, elle doit éclairer toute ma philosophie. Toute ma philosophie s'éclaire par la distinction de l'être en acte et en puissance. Alors c'est ça que je voudrais voir avec vous. Et ça nous aide beaucoup à comprendre cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance. Parce que c'est plus facile de la saisir dans ses diverses modalités. Ici, dans ces diverses modalités, on essaiera de comprendre ce qu'il y a d'un à travers toute cette modalité. Et à partir de là, de saisir le principe de finalité au niveau métaphysique. Mais je pourrais le voir tout de suite. Hein. Mais j'aime mieux prendre ce détour pour mieux saisir toute la richesse de cette distinction de l'être en acte.